नमो बुद्धया, नमो धर्मया, नमो संगया, ओम आहोम। Aujourd'hui, nous allons aborder un thème central et classique de l'enseignement du Bouddha, les six mondes. Les six mondes de la conscience, les six mondes que sont les six états dans lesquels nous vivons, dans lesquels la vie, dans tous ses états, se déroule. Nous avons vu précédemment les différents mondes produits par le karma. Nous allons maintenant voir ces six mondes d'une façon plus particulière, chacun avec ses caractéristiques. Mais il est d'abord important de comprendre de quoi nous parlons lorsque nous parlons des six mondes. Cela est souvent pas très bien compris. Dans les différents états de l'esprit, les différents états de la conscience, il y a ces états, mondes, et ils peuvent être définis par leur qualité, une sorte de tonalité émotionnelle ou passionnelle, et aussi par une intensité, une intensité de la conscience dans sa polarisation ou dans ses projections. Il y a ainsi une qualification de par la tonalité et de par la polarité, pourrait-on dire. Le descriptif des six mondes est une vision, on pourrait dire, naturelle, qui est parlante, qui que l'on soit, et qui peut se comprendre d'une façon très simple. Cela parle à des personnes qui n'ont aucune éducation particulière, car c'est naturel. Il peut y avoir aussi des compréhensions psychologiques, des compréhensions spirituelles. Et ces différents niveaux de compréhension sont imbriqués, ou disons, ne sont pas contradictoires. Une même expression est susceptible d'être comprise à ces différents niveaux. Donc, c'est important d'avoir cela présent à l'esprit dans notre étude et de pouvoir par là même entrer dans l'intelligence de ces différents sens. Vajradhara Kelo Rinpoche nous dit: qualitativement, chacune des six passions de l'esprit engendre plus particulièrement un certain type de naissance. La colère-haine induit l'état infernal, l'avidité, l'état d'esprit avide, la stupidité, la condition animale, le désir-attachement, la condition humaine, la jalousie, l'état de Dieu jaloux, l'orgueil, l'état divin. Donc, c'est la tonalité de l'émotion, la tonalité de la passion, ici, qui détermine l'état. Colère, enfer, jusqu'à orgueil, suffisance, état divin. Ensuite, quantitativement, ces différents états résultent aussi de l'accumulation de karma. Ainsi, beaucoup de karma négatif génère un état infernal, s'il est moindre, un état d'esprit avide, et s'il est encore plus petit, une condition animale. Donc, une détermination quantitative de par l'intensité du karma, qui peut aussi être compris comme l'intensité de la polarisation de la conscience. une conscience complètement polarisée qui, comme on dit, se cogne la tête sur le mur de ses projections, qui est dans une attitude de refus ou de déni complet, et est un état complètement polarisé qui s'enferme dans ses projections et qui est littéralement infernal, enferré. D'autres états peuvent être beaucoup plus ouverts, beaucoup plus vastes, beaucoup moins polarisés. Et à la limite, ce sont les états divins qui correspondent à des états de conscience, qui sont des états d'absorption méditative. Donc, comprenons bien, les six mondes avaient cette composante qualitative ou de tonalité eu égard à une coloration passionnelle et aussi en termes quantitatifs, si l'on peut dire, d'une polarisation de l'expérience, une polarisation de la conscience plus ou moins intense. Vajradhara Kalu continue en disant, quand un karma globalement positif est mêlé à quelques aspects négatifs, il s'ensuit une renaissance selon leurs forces, respectivement dans l'une des trois classes d'êtres vivants supérieurs. Bon, donc si la dominante est positive, alors la dominante ici pouvant se comprendre aussi bien dans la tonalité d'une émotion qui est moins lourde, moins polarisée, cela amène à un état de conscience supérieur et inversement. Les états infernaux. Donc nous voyons maintenant la présentation des six états, des six mondes. L'esprit, sous l'emprise de la colère et de la haine, produit le karma d'une existence infernale. Donc, l'esprit en proie à la colère, à la fixation sur un mauvais objet, qui est avec l'agression, la colère, la haine, et cette passion, pulsion, émotion conflictuelle, génère un état infernal. Donc, l'activité d'une telle passion induit un état infernal. Ce qui souffre dans cet état, c'est l'esprit, notre esprit. Les apparences infernales que nous éprouvons, les êtres qui nous agressent, nous tuent dans ces états infernaux, l'environnement et toutes les souffrances qui nous affligent sont les productions de notre propre esprit conditionné par notre karma. Et il y a une citation célèbre de Shantideva dans le Bodhicharyavatara qui a été mise en exergue du chapitre qui dit « Par qui et comment sont produites les armes des habitants des enfers. » Alors, lorsque l'on regarde des descriptions traditionnelles des enfers, il y a des scènes avec des bourreaux infernaux, avec des lances, des scies, et il est dans les différents enfers chauds, par exemple, des chaudrons brûlants, des maisons de flammes, et où on peut être écartelé, morcelé. Donc il y a toutes sortes de souffrances extrêmes qui sont éprouvées dans ces états. Et par qui et comment sont produites les armes des habitants des enfers, qui fait leur sol de métal brûlant, d'où viennent leurs brasiers? Le Bouddha enseigna que tous ces phénomènes sont la production d'un esprit en proie aux passions. des états passionnels et c'est la ce que l'on vit dans ces états passionnels extrêmes. Donc, c'est une réalité expérientielle, ça n'est pas à prendre comme le descriptif d'une réalité physique. Dans ces états des distances infernaux, nous sommes perpétuellement soumis à des souffrances extrêmes. Nous sommes tués par le feu et la glace, le chaud de la colère, la glace de la haine. Il n'existe aucune liberté ni possibilité de se consacrer à la voie spirituelle. Nous sommes en ces états complètement possédés par la souffrance, omnubilés par celle-ci, et cela dure très très longtemps sans qu'il y ait de liberté, de possibilité de se consacrer à la pratique. Il est très difficile d'en sortir. Ensuite vient l'état d'esprit avide. Si notre esprit tombe sous l'emprise de l'avidité, de la cupidité, s'ensuit le karma d'une naissance comme esprit avide. Dans cet état, nous ne pouvons jamais rencontrer ce que nous désirons, ni jouir des nourritures et des boissons auxquelles nous aspirons. C'est un état dans lequel nous sommes toujours en manque, complètement incapables d'assouvir nos désirs, dans lequel nous souffrons de la faim, de la soif et de frustrations intenses et constantes. L'état d'esprit avide, qui est l'état d'avidité. Dans l'avidité, on est toujours en manque, on n'a jamais assez et l'on voudrait toujours plus, encore. Certains esprits avides ont un ventre énorme et une bouche comme une paille. Et ils sont toujours dans l'insatisfaction, en manque. Ils n'arrivent pas à assouvir leur avidité. Cette attitude d'avidité insatiable est très commune. Et aujourd'hui, nous avons souvent des mentalités d'esprit avide dans notre société de consommation. En tout cas, cet état d'esprit avide, tout le temps dans la souffrance, de l'insatisfaction et du manque, sans pouvoir assouvir, sans pouvoir combler son appétence et sa soif. C'est aussi un état produit par notre propre esprit, un peu moins défavorisé que les états infernaux, bien qu'encore extrêmement pitoyable. La condition animale, dont nous montons depuis l'état de conscience le plus polarisé, le plus douloureux qu'est l'état infernal, puis celui d'esprit avide, puis la condition animale. Les trois constituant les états d'existence, les états de conscience inférieurs. Nous verrons ensuite les supérieurs. Dans la condition animale, l'esprit est sous l'emprise de l'aveuglement, de l'opacité mentale, de la bêtise, qui cause la naissance en un état d'existence animale. Il y a de très nombreuses espèces animales, sauvages, domestiques, etc., toutes éprouvent différentes formes de souffrance. Celles de s'entre-dévorer, de lutter les unes contre les autres, d'être asservies, maltraitées. Toutes ces peines, ces difficultés rencontrées dans la condition animale sont aussi des productions de l'esprit, actualisation d'un karma, résultat d'actes négatifs antérieurs. Donc, la mentalité animale, la conscience animale, gouvernée par la bêtise, l'opacité, le manque de discernement, de clairvoyance, et avec ses souffrances, son centre dévoré, lutte et aussi un asservissement, maltraitance, cette condition animale. Ces trois types d'existence constituent les états d'existence inférieurs. Parmi eux, le plus favorisé est la condition animale. Mais même dans celle-ci, il est difficile d'éveiller de l'amour et de la compassion et impossible de pratiquer le dharma. Dans tous les états inférieurs, il n'existe pas de possibilité de suivre le dharma et d'atteindre la libération. L'esprit y est sans cesse en proie aux diverses passions, à la colère, à la haine, au désir, etc. L'esprit est tout le temps sous l'emprise des passions, il est possédé par celles-ci. De plus, les êtres en ces états ont tendance à perpétuer de nouveaux actes négatifs. Ils y sont de par une activité négative, des comportements négatifs, et ils ont tendance en plus à en générer de nouveaux, qui sont source d'autres karmas douloureux. Ils perpétuent ainsi les conditionnements de ces existences inférieures dont les durées sont très longues. Et ça continue, ça se génère, il y a des cercles vicieux, si on peut dire, qui font que ces états durent et qu'il est très difficile de s'en sortir. Les humains sont quasiment les seuls à disposer des conditions nécessaires à une progression spirituelle et à posséder les facultés qui permettent de comprendre et de pratiquer le dharma. La condition humaine n'est pas la plus haute, mais elle est dans sa position intermédiaire, une situation extrêmement favorable pour l'évolution spirituelle, pour la pratique. Il y a des souffrances, il y a des possibilités, et les possibilités peuvent être utilisées pour se libérer des souffrances qui sont susceptibles d'être des rappels aussi, ici. Toutefois, l'existence humaine à elle seule n'est pas une condition suffisante pour assurer la progression spirituelle. Sa valeur est variable. Et il n'y a que ceux qui ont obtenu ce que l'on appelle la précieuse existence humaine qui peuvent pratiquer le dharma. Ils sont aussi rares que les étoiles en plein jour. Dans l'état de conscience humaine, dans la condition humaine, il y a les mauvaises existences humaines, les bonnes existences humaines et les existences humaines neutres. Mauvaises qui font des choses négatives pour soi et pour autrui. Et neutres, rien de très bon, rien de très mauvais. Et dans les bonnes existences humaines, la meilleure est ce que l'on nomme la précieuse existence humaine, libre et qualifiée, c'est-à-dire la condition humaine en laquelle l'on a la liberté de se consacrer au cheminement spirituel, on a la possibilité, on a la disponibilité, et aussi les qualités qui le permettent, les qualités en propre dans sa constitution personnelle, les qualités aussi qui viennent d'un environnement favorable. Cette précieuse existence humaine est rarissime, aussi rare que les étoiles diurnes. Nous y reviendrons, c'est une méditation, une prise de conscience importante. Bien qu'elle soit moins pénible que les existences inférieures, la condition humaine proprement comporte encore de nombreuses souffrances. Les quatre principales sont celles de la naissance, de la maladie, de la vieillesse et de la mort. Outre ces quatre grandes souffrances, les hommes éprouvent celle d'être séparés des personnes qu'ils aiment tendrement, de leur vivant ou par la mort, ou de devoir rencontrer des personnes qu'ils n'auraient pas souhaité rencontrer, qui leur sont hostiles. Ils souffrent aussi d'être dépossédés de leurs biens, de ne pouvoir garder ce qu'ils ont et de ne pouvoir obtenir ce qu'ils désirent. Dans les souffrances humaines, naissance, vieillesse, maladie, mort, les quatre grandes, et d'être séparé de ceux que l'on aime, de rencontrer ceux que l'on n'aime pas, de ne pouvoir garder ce que l'on a, de ne pouvoir obtenir ce que l'on souhaite. Ensuite, l'état de Dieu jaloux, de Asura, le Dieu jaloux ou anti-Dieu, comme nous allons voir, qui sont en lutte avec les dieux. Un karma globalement positif, mêlé à de la jalousie, crée une naissance dans l'état dit des dieux jaloux. C'est une condition heureuse, pourvue de nombreux pouvoirs et de maints plaisirs, mais où, sous l'emprise de la jalousie, il y a perpétuellement des luttes et des conflits. Les dieux jaloux s'opposent aux dieux qui leur sont supérieurs et se querellent entre eux. Les dieux jaloux sont cette mentalité de rivalité, de compétition, de jalousie, d'envie, en voyant les dieux qui leur sont supérieurs et qui ont plus qu'eux, et donc de s'engager dans une compétition et dans une rivalité. Dans la mythologie traditionnelle, il y a au sommet de la montagne centrale un arbre de vie aux fruits magnifiques, dont les racines sont chez les dieux jaloux et les fruits chez les dieux. Et les dieux jaloux revendiquent les fruits auprès des dieux au titre que les racines qui produisent ces fruits sont chez eux. Mais les dieux disent « Désolé, les fruits sont chez nous ». Et il s'ensuit rivalité, querelle et guerre, et ces souffrances qui sont celles des dieux jaloux. Puis les états divins. Un karma positif, combiné à très peu d'activités négatives, permet de renaître dans les états divins. Il y a différents niveaux d'existence divine. Les premiers sont les états divins de la sphère des passions, ainsi nommés parce que l'esprit y est encore en proie aux désirs et aux attachements. Les dieux ont une vie extrêmement longue. C'est ainsi que dans l'un de ses premiers états divins, une journée dure 100 années humaines et ils vivent 500 de leurs années. Au niveau suivant, 100 de nos années égale une de leurs journées et ils vivent 1000 ans. Donc, ce sont des états de conscience extrêmement longs. Dans ces états globalement heureux, il y a néanmoins quelques souffrances, particulièrement celles qui résultent de luttes passagères avec le monde des dieux jaloux. Depuis l'état le plus misérable, la condition infernale, jusqu'à ces premiers états divins, s'étagent les niveaux d'existence de la sphère ou du royaume des passions, ainsi appelés parce que tous ces états sont sous leur emprise. Alors, les six mondes, les six grands états de la conscience, se répartissent dans trois sphères ou dans trois royaumes, que l'on nomme le royaume des passions, le Kamaloka, puis le royaume dit de la forme pure, Rupa Loka, et le royaume sans forme, la Rupa Loka. On peut dire royaume, on peut dire domaine. Donc le premier, le royaume des passions, le domaine des passions, est dit tel parce que tous les états de la conscience qui en font partie sont dominés par les passions, sont sous l'emprise de celles-ci. Les passions sont leurs caractéristiques dominantes. Au-dessus de cette sphère des passions, de ce domaine des passions, il y a la sphère de la forme pure, qui comprend une hiérarchie de 17 niveaux divins successifs. Dans ces états, les êtres ont une forme subtile, un corps de nature lumineuse extrêmement grand. L'esprit y connaît peu de passion, peu de pensée et jouit de grand bonheur. La passion qui y prédomine est un orgueil subtil. Les êtres de ces états pensent avoir réalisé quelque chose de supérieur et vivent dans une sorte d'autosatisfaction. Dans le domaine de la forme pure, les états de conscience divins, sont caractérisés par une expérience vaste, un vaste corps lumineux. Nous parlons d'un état de conscience. Et cet état de conscience correspond à différents états d'absorption méditative, différents états de contemplation, d'absorption. Dans la hiérarchie des 17 états, ils sont de plus en plus libres des saisies, de plus en plus ouverts et lumineux. Ils sont de moins en moins en proie au concept, au mental et à la saisie qui les caractérise. Ces états du monde de la forme pure sont aussi la résultante de la saisie d'expériences méditatives. Saisir des expériences de bien-être et de félicité fait naître dans les états divins du même monde des passions. Saisir des expériences de clarté fait naître dans les états divins de la forme pure, et la saisie très subtile d'expériences de non-pensée fait naître en les états divins de l'arupa loka, le monde du sans-forme. Mais le point important est que ce sont des états de conscience qui sont de subtiles appropriations, de subtiles saisies d'états d'absorption, d'états de contemplation. Et comme le dit Vajradhara Rinpoche, les personnes en ces états pensent avoir réalisé quelque chose de supérieur dans leur bien-être, dans leur état de clarté ou dans leur état de non-pensée. Et ils vivent ainsi dans une sorte d'autosatisfaction. Je crois que c'est arrivé, c'est bien. Cette forme d'autosatisfaction, d'orgueil subtil. Ces états de la sphère du domaine de la forme pure correspondent à 4 degrés d'absorption méditative, caractérisés par le dépassement progressif des expériences de cogitation, de jugement, de joie et de félicité. De cogitation, de conception, puis de jugement, d'évaluation, et ensuite même de joie et de félicité. Il y a de moins en moins, comme je vous le disais, de saisie, fût-ce même vis-à-vis de la joie et du bonheur, du bien-être, de la félicité. Finalement, au-delà même de ces quatre degrés d'absorption de la forme pure, il peut encore y avoir naissance dans la sphère sans forme, la rupa loka. Les êtres y sont libres de toutes les souffrances grossières et n'ont pratiquement plus de passion. Il ne reste de celles-ci que des traces subtiles, de subtiles saisies. L'impureté restant dans leur esprit est une sorte d'opacité mentale empêchant la reconnaissance de la nature ultime de l'esprit. Une forme d'opacité, d'obscurcissement subtil en laquelle la conscience habite encore. C'est ainsi qu'au-delà des absorptions méditatives de la sphère de la forme pure, dans la sphère sans forme, l'esprit, la conscience, accède encore à quatre champs d'expérience successifs, appelés domaines de l'espace illimité, domaines de la conscience infinie, ou conscience cosmique, domaine du vide, et enfin, domaine sans conception ni non-conception. Donc, il s'agit là d'expériences de la conscience extrêmement subtiles, comme une expérience d'espace infini, ou de conscience infinie. Ou sans rien, et même sans conception ni non-conception. On est à la limite de l'inconcevable, mais il y a encore là des formes d'absorption ou d'appui extrêmement subtil de la conscience dans ces états, et par là même, il s'agit encore toujours d'états de conscience dualiste et d'états par la même samsarique. Les dieux vivant dans la sphère sans forme ont l'impression d'avoir un corps, mais ce corps est imperceptible. Ils n'ont plus que le cinquième constituant de l'individualité, leur corps et conscience. Mais la conscience, encore présente sous la forme d'une ignorance subtile, la conscience qui duelle et cette forme d'ignorance subtile leur donne l'impression d'exister dans ce corps sans forme. Cette conscience agit finalement comme une mère qui redonne naissance aux autres constituants. Cette conscience subtile va engendrer de nouveau une conscience individuelle, passionnelle et les différentes expériences et formes que celle-ci vit. Ainsi, les dieux de la sphère sans forme rechutent-ils une fois de plus dans les états inférieurs? Lorsque la conscience resolidifie dans une individualité et entre dans les différents constituants de celle-ci, il y a chute dans des états de conscience inférieurs, niveau monde samsarique inférieur. Pour être libérée du samsara, la conscience elle-même doit finalement être convertie, transformée, libérée en expérience primordiale, en la sagesse de l'éveil. La libération du samsara est la libération de la conscience en l'expérience immédiate, le passage de l'expérience duelle à l'expérience non-duelle, le passage de ce que l'on nomme en sanskrit vijnana, la conscience duelle, à jnana, la gnose, qui est l'expérience première, non-dualiste, sagesse primordiale. Les huit états de la sphère de la forme pure et du monde sans forme, lorsque l'on en compte huit, ce sont les quatre niveaux de méditation du domaine de la forme pure, plus les quatre niveaux du monde sans forme, sont ceux d'un esprit positif, libre des distractions, leur degré successif étant de plus en plus dépourvu d'attachement, de plus en plus dépourvu de fixation, de saisie, de plus en plus dépourvu de dualité. Tous ces états des six mondes sont transitoires, impermanents et conditionnés. Ils font tous partie de la ronde du samsara. Les dieux de la sphère de la forme subtile et de la sphère sans forme, bien qu'épargnés par toutes les peines grossières, subissent encore celles de devoir mourir et transmigrer. Ce sont des états qui, bien qu'extrêmement longs, sont impermanents, ils ont une fin, une mort, et il y a redescente dans des états de conscience inférieurs ou qui leur sont inférieurs, et ainsi transmigration. Ils n'ont pas le pouvoir de garder leur condition divine et souffrent de devoir renaître en un état inférieur. Et Vajradhara Kalambachi ici fait une remarque, il dit: si nous trouvons difficile d'accepter la notion de ces différents mondes, retenons simplement que l'expérience de chaque vivant est sa réalité. L'expérience que nous vivons est notre réalité, c'est évident. Et cette réalité est notre monde, le monde dans lequel je vis et je suis. Pendant que nous rêvons, nos rêves sont notre réalité. Ainsi en va-t-il pour les six mondes. La conscience, le sujet conscient et son monde existent comme rêve et rêveur, comme sujet onirique et monde onirique dans les projection de la conscience duelle. Et aussi, de faire une autre remarque. Par exemple, un élément comme l'eau peut être expérimenté de façon fort différente. Pour les êtres des états infernaux, c'est un objet de torture. Pour les esprits avides, c'est quelque chose d'intensément désiré. Pour certains animaux, c'est un milieu vital. Pour les hommes, une boisson. Pour les dieux jaloux, une arme. Et pour les dieux, un nectar sublime. La même chose peut être perçue suivant l'état de conscience, suivant la personne de façon complètement différente. Les profondeurs de l'océan sont l'environnement vital des poissons, mais les hommes ne peuvent y vivre. Les oiseaux volent dans le ciel, ce qui est impossible aux humains. Un aveugle ne peut aller où il veut, alors que ceux qui ont une vision normale sont libres de leur mouvement. Chacun vit dans son monde sans percevoir les autres mondes. Chacun est dans son état de conscience, dans le monde de son expérience, de ses projections, sans vivre et percevoir réellement la réalité des autres. En résumé, le samsara est constitué de trois domaines: le domaine des passions, le domaine de la forme pure et le domaine du sans-forme. toutes les possibilités d'existence, tous les états de la conscience sont inclus dans ces trois domaines. Prendre conscience que tous les êtres du cycle des existences souffrent nous incitera à nous libérer de l'ignorance et des illusions dans lesquelles elles nous plongent, à nous libérer du samsara, qui est un océan de souffrance, et à nous efforcer d'accéder à la suprême félicité de l'état de parfait Bouddha. La conscience dans sa dualité souffrance, où les trois niveaux de dukkha, de mal-être, sont inhérents à l'existence duelle de la conscience habituelle. Et lorsque l'on le comprend vraiment, cette compréhension est une incitation à nous en libérer, à réaliser l'état de parfait Bouddha. Dans le passé, nous avons pris un nombre indéfini de naissances dans le cycle des existences. Nous sommes passés par tous les états de la conscience. Aujourd'hui, nous avons la condition humaine et la précieuse existence humaine. Si nous savons bien l'utiliser, elle peut être le point de départ de notre libération. Donc, je vous invite dans cette motivation à un moment de méditation. Toute vertu ainsi pratiquée est sans aucune appropriation dédiée au bien de tous les vivants en la réalité absolue.